Clarté biblique, une émission présentée par Jean-François Sécolier.
Bonjour chers amis, bonjour chers auditeurs, bonjour à tous. Eh bien, je suis ravi de vous retrouver dans cette série concernant l'Église. Et dans la deuxième série d'émissions concernant l'organisation spirituelle de l'Église. Eh bien, aujourd'hui, j'aimerais vous parler des ministères. Que signifie le terme ministère? Le terme ministre pourrait aussi bien se traduire par le terme serviteur, voire pour certains traducteurs par esclave. Le mot ordinairement utilisé est « ébède ». Il désigne tous ceux qui doivent servir, qu'il s'agisse d'un service volontaire ou obligatoire, et peut par conséquent désigner aussi bien le prisonnier de guerre que l'esclave acheté, le fonctionnaire attaché au service d'un souverain, et même l'adorateur de l'Éternel, comme dans le verset suivant, que vous connaissez. Une servante qui avait un esprit de Python vint au devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait : ces hommes sont les serviteurs du Dieu Très-Haut, Actes chapitre 16, versets 16 et 17. Eh bien, dans ce terme serviteur, il s'agit du mot ébède dans l'original. On trouve aussi le mot hébreu msharet. Ça s'écrit en apostrophe S-H-A-R-E-T, qui correspond au grec, ne riez pas, hypercute, U-P-E-R-C-U-T-S. Il s'agit de celui qui assiste un grand personnage. Il désigne par exemple Joseph, étant esclave, servant son maître dans l'administration de ses biens. On trouve ce verset, enfin ce mot charrette, donc par rapport à Joseph dans Genèse chapitre 39 et verset 4. Les disciples reçurent des ordres du Christ et devinrent les ministres ou serviteurs de l'Évangile. Luc chapitre 1 verset 2. Autre texte, toujours dans Luc, versets 21 à 23. Cependant, le peuple attendait Zacharie, s'étonnant de ce qu'il restait si longtemps dans le temple. Quand il sortit, il ne put leur parler, et ils comprirent qu'il avait eu une vision dans le temple. Il leur faisait des signes, et il resta muet. Lorsque ses jours de service furent écoulés, il s'en alla chez lui. Eh bien, dans ce verset 23, où il est dit « lorsque ses jours de service furent écoulés », le mot « service », c'est « psharet ». Les termes « apôtre » et « ministre » ont la même origine. Le même mot hébreu « psharet » est parfois traduit en grec par « leiturgos ». Il a le sens de « grand serviteur » et désigne un serviteur de Dieu ou de l'État. On le trouve dans Luc chapitre 1, verset 23, ou Hébreux chapitre 9, verset 21. On l'utilise même pour Christ, souverain sacrificateur céleste. Hébreux chapitre 8, verset 2. On l'utilise aussi pour les attachés d'une cour. 1 Rois chapitre 10, verset 5. Pour un magistrat. Romains chapitre 13, verset 6. Et même aussi pour les anges. Psaume 103, verset 4. Enfin, le terme grec « diakonos » est utilisé pour un magistrat, ministre de Dieu, exerçant la justice pour punir celui qui fait le mal, Romains chapitre 13, verset 4. Il s'applique particulièrement aux prédicateurs de l'Évangile. Timothée, cité dans Thessaloniciens chapitre 3, verset 22, Paul et Apollos, tous deux cités dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 5, Tychique, cité dans Éphésiens chapitre 4, verset 21, et Epaphras, cité dans Colossiens chapitre 3, verset 5. Donc c'est le terme diakonos. Remarque, le Nouveau Testament emploie aussi diakonos dans le sens restreint de diacre, c'est-à-dire de quelqu'un chargé d'exercer dans une église des fonctions spéciales d'ordre matériel distinctes de celles d'anciens, qu'on appelait aussi presbytre. Donc, pour résumer, le ministre est un serviteur et le ministère est un service, c'est-à-dire l'engagement dans un type d'action à long terme. Deuxième point, le ministère est un don. Nous voyons ça dans Éphésiens chapitre 4, verset 11, où on lit ceci, « Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints. » Un ministère est assurément aussi un don de Dieu, puisqu'il est dit « il a donné ». Ce don est une personne que Dieu a appelée et qualifiée pour l'Église. Et cette qualification est durable. L'apôtre est apôtre, un point c'est tout. L'évangéliste l'est une bonne fois pour toutes. Le pasteur ou docteur aussi. Et le prophète, me semble-t-il, n'échappe pas à cette règle. Il y avait à l'époque de l'Église primitive plusieurs évangélistes, plusieurs docteurs, plusieurs évêques, plusieurs prophètes dans la même communauté ou église locale. Il est vrai que le nombre de fidèles dans l'Église de Jérusalem était impressionnant, plusieurs milliers. Mais il devrait y avoir, donc aujourd'hui, eh bien aussi dans nos églises, normalement, des prophètes, des évêques, etc., des évangélistes, des docteurs ou pasteurs. Et la question donc qu'on peut se poser, c'est pourquoi n'en est-il pas ainsi? Eh bien, nous essaierons de l'expliquer un peu plus loin. Je voudrais vous parler maintenant de la didache. Je ne sais pas si vous avez entendu ce terme, mais dans la didache ou doctrine des apôtres, qui est un ouvrage anonyme qui date du 1er siècle, même si certains historiens datent ce texte du début du second siècle, plus précisément en l'an 120, ce texte ayant été retrouvé en 1873, donc tardivement. Et bien dans la didache, donc, l'auteur distingue les ministères itinérants, c'est-à-dire apôtres, prophètes et docteurs, et les ministères sédentaires, évêques ou anciens et diacres. Ignace d'Antioche, disciple de Jean, fut sommé d'adjurer sous l'empereur Trajan, qui régna de 98 à 117. Il refusa d'adjurer et fut emmené à Rome où il mourut martyr. Au cours de son voyage, il écrivit sept lettres ou épîtres, remarquables par la ferveur avec laquelle il défend la vérité et par son désir de subir le martyr. Il donne à l'évêque une nette prééminence sur les anciens. Il est aussi le premier à parler d'église catholique, ce qui signifie universelle. Voilà, ça c'est tiré du précis d'Histoire de l'Église, page 21. Cette prééminence de l'évêque n'existe pas dans les textes bibliques. Elle peut s'expliquer peut-être par un besoin localisé ou encore par la propension de l'homme à toujours vouloir se donner un chef comme le peuple hébreu pour échapper à Dieu. Vous vous rappelez certainement cette histoire que l'on trouve dans 1 Samuel chapitre 8 versets 4 à 9 et que je vous relis pour mémoire. Tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Rama. Ils lui dirent « Voici, tu es vieux et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger, comme il y en a chez toutes les nations. » Samuel vit avec déplaisir qu'il disait « Donne-nous un roi pour nous juger. » Et Samuel pria l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel « Écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette, afin que je ne règne plus sur eux. Ils agissent à ton égard, comme ils ont toujours agi depuis que je les ai fait monter d'Égypte jusqu'à ce jour. Ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. Écoute donc leur voix, mais donne-leur des avertissements et fais-leur connaître le droit du roi qui règnera sur eux. » Samuel rapporta toutes les paroles de l'Éternel au peuple qui lui demandait un roi. Voilà donc ce triste passage de l'Écriture où l'on voit que le peuple d'Israël non seulement veut imiter les autres nations, mais a besoin d'un roi qui se voit, qui est palpable, qui est visible. Alors que l'Éternel, Dieu, est un esprit, et un esprit évidemment ne se voit pas. Ils veulent du concret. Autre texte, Deutéronome chapitre 17, versets 14 et 15. Dieu dit « Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, lorsque tu le posséderas, tu y établiras ta demeure, et que tu diras « Je veux mettre un roi sur moi, comme toutes les nations qui m'entourent. » Tu mettras sur toi un roi que choisira l'Éternel ton Dieu. Tu prendras un roi du milieu de tes frères. Tu ne pourras pas te donner un étranger qui ne soit pas ton frère. » Voilà donc une limitation qui est donnée par Dieu. Vous voulez un roi, très bien, mais au moins qu'il fasse partie du peuple de l'Éternel, du peuple d'Israël, et surtout pas un étranger. Donc pour simplifier et pour résumer, disons que le ministre dans l'Évangile est avant tout un serviteur de Dieu, investi par lui dans la communauté, et nous verrons tout cela dans détail prochainement. En attendant, je vous propose un petit peu de musique. Bien voilà, nous reprenons donc notre émission avec ce troisième point, être appelé. Éphésiens chapitre 1, verset 11, je lis, en lui, c'est-à-dire en Dieu, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Ce verset nous indique que c'est la volonté de Dieu qui préside à tous ses actes. Dieu fait, Dieu agit en fonction de sa propre volonté. Jésus, par exemple, ne s'est pas désigné lui-même, mais il a été envoyé. Je lis, « Celui qui me reçoit, dit Jésus, celui qui reçoit, celui qui m'a envoyé. » Matthieu chapitre 10, verset 40, je le redis, « Celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. » Watchman Nee, dans son livre intitulé « La vie normale de l'Église », écrit page 27, « Si le Fils lui-même n'avait à prendre aucune initiative dans l'œuvre de Dieu, est-il vraisemblable que nous ayons à le faire ? Les apôtres n'étaient pas des volontaires, mais des envoyés. Toute œuvre divine est l'accomplissement d'un mandat, page 28. Dieu a désigné son Fils pour qu'il soit l'apôtre. Le Christ a désigné des disciples pour qu'ils soient les 12 apôtres. Et le Saint-Esprit a désigné un groupe d'hommes, en dehors des 12, pour qu'ils soient apôtres, page 31. Seul le Saint-Esprit qualifie et mandate le chrétien. Aucun homme n'a le droit de le faire à sa place. Chacun doit discerner quel est le rôle qu'il a à jouer et en avoir une profonde conviction. Je pense aussi que l'Église doit discerner le don que Dieu a donné à l'un ou à l'autre. La communauté est appelée à confirmer ou infirmer ce rôle, se soumettre parfaitement à la volonté de Dieu, et la première des conditions pour espérer être véritablement utile. Aucun de nous, même après la repentance, même après la nouvelle naissance, ne peut porter en lui tous les dons et tous les ministères. Ceux qui prétendent le contraire sont des ignorants ou des menteurs ou des imposteurs. Si c'était le cas, cela ferait de lui un surhomme, une espèce de Dieu, ou du moins un intermédiaire privilégié entre Dieu et les hommes. Or, vous le savez, il n'y a qu'un seul médiateur possible entre Dieu et les hommes, et ce médiateur est Jésus-Christ. 1 Timothée chapitre 2, verset 5, vous le connaissez ce verset, « Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. » 1 Timothée, chapitre 2, verset 5. Je le relis, « Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. » Donc méfions-nous de tous ceux qui veulent être médiateurs à la place de Jésus entre Dieu et les hommes. C'est la raison pour laquelle, dans son infinie sagesse, Dieu a distribué, selon son bon plaisir, les ministères et les dons à chacun de nous en complémentarité. Ce n'est pas du goût de la plupart des ecclésiastiques, qui voudraient faire croire le contraire pour dominer sur leurs frères, se donner une importance surfaite et de mauvais aloi. Dès le début de l'Église primitive, le Saint-Esprit a équipé les disciples de ministères. Quels sont-ils? Qui peut les recevoir? À quoi servent-ils? Peut-il y avoir des abus? Etc. Essayons de répondre à ces questions. Il nous faudra sûrement quelques émissions pour parler de tout cela. Nombreuses sont les tâches à accomplir dans l'Église de Jérusalem et nombreux sont les ministères. Eh bien, nous allons d'abord commencer par l'importance historique de l'évêque. L'importance historique de l'évêque d'après un livre intitulé « L'Église dans l'histoire » écrit par M. Kayayan. C'est le père du M. Kayayan que nous écoutons parfois sur nos antennes et qui a écrit un certain nombre de livres, donc le papa de M. Kayayan. Je lis ce qu'il a écrit. « La croissance intérieure de l'Église primitive entre l'an 33 et 325 concerne la formulation de sa doctrine et des articles de sa foi en tant que propositions offertes à la foi et à la croyance, entre guillemets, de ses membres. Elle comprend également l'organisation ecclésiastique. Ces deux points sont d'une extrême importance étant donné qu'ils concernent la présentation même de la vérité révélée autant que le système de gouvernement de l'Église. Des chrétiens d'une grande foi et d'une grande intelligence consacrèrent leur vie à la recherche de la vérité et à l'étude des Écritures afin de les défendre face aux adversaires du christianisme et face aux faux enseignements en cours durant cette période. À l'heure actuelle, de nombreux chrétiens n'apprécient pas un discours consacré à la doctrine, car ils pensent qu'elle a été la cause de grandes controverses et de douloureuses divisions. L'effet d'un tel raisonnement et de tels discours est désastreux pour l'Église et pour sa mission. De nombreux pasteurs, dans certaines églises, n'enseignent plus en quoi consiste la foi et quels sont les articles fondamentaux de l'enseignement biblique et chrétien. Effectivement, j'avais remarqué, et j'en avais fait la remarque également, que dans une certaine église que je fréquentais, on ne parlait jamais ni du péché, ni de la repentance, qui sont pourtant des sujets extrêmement importants. Je poursuis la lecture du texte de M. Kayayan. Rappelons-nous que plusieurs points de l'enseignement de notre Seigneur n'avaient pas été immédiatement saisis par ses disciples. 100 ans après l'ascension du Seigneur, nous nous apercevons, à travers les écrits des pères apostoliques, que ces derniers n'avaient pas, eux non plus, saisi toute la richesse de cet enseignement. Toutefois, ils cherchaient à mieux connaître la vérité qui le concernait. C'est pourquoi ils étudièrent et ils écrivirent à ce sujet. À cette époque, dit-il, la foi chrétienne était attaquée de toutes parts et les opposants répandaient des calomnies au sujet des chrétiens. Ils déformaient aussi l'enseignement chrétien. C'est dans le souci de défendre aussi bien les chrétiens que les articles de la foi que les auteurs chrétiens rédigèrent et publièrent des œuvres pour la défense du christianisme face à ses adversaires. L'un des plus importants parmi eux fut Justin, surnommé martyr. La lutte acharnée que l'Église mena contre les hérésies gnostiques eut un triple résultat: la confession de foi, le canon biblique et l'organisation ecclésiastique. À partir de ce moment-là, le gouvernement de l'Église prit la forme épiscopale et cette réforme dura sans interruption jusqu'à la réforme du XVIe siècle. Or, écrit-il, à ses débuts, l'organisation de l'Église était très simple. Ses ministres étaient des anciens et des diacres. Dans l'Église ancienne, les presbytres ou anciens appartenaient tous au même rang, sans classe ni distinction, sauf qu'un seul d'entre eux présidait le collège des anciens, le culte et la prédication. J'en dirai deux mots tout à l'heure. Au cours des années, le titre d'évêque fut porté par certains presbytres qui présidaient le conseil des anciens. Peu à peu, les autres devinrent ses subordonnés, et c'est ainsi que l'évêque vint à gouverner entièrement à lui seul l'Église d'une région déterminée. Le terme « monarque » désigne en grec un homme qui gouverne seul. C'est pourquoi il fut appliqué à ces évêques possédant l'autorité d'évêques monarchiques dans les églises. Voilà, donc c'est un extrait de ce livre entre pages 32 à 38. Donc fin de citation de ce livre « L'histoire ». L'Église dans l'histoire, écrit par M. Kayayan. Je reprends mon commentaire. Voilà comment, petit à petit, l'organisation de l'Église primitive a été dévoyée. Lorsque l'auteur dit qu'un seul d'entre eux présidait le collège des anciens, le culte et la prédication, cela n'est apparu que dans un second temps. Il n'en était pas ainsi au temps des premiers apôtres, au tout début, même si l'on prête à Jacques, frère de Jésus, un rôle prépondérant dans l'Église de Jérusalem, ce qui n'est pas vraiment prouvé. Pourquoi n'y avait-il pas de chef dans le début de l'Église primitive. Tout simplement parce que l'autorité était donnée au Saint-Esprit et non à un homme. On était sans arrêt dans l'écoute du Saint-Esprit, dans l'attente d'une réponse ou d'une direction qui vienne du ciel. Ce comportement s'est estompé, puis perdu au fil des temps. J'imagine aussi qu'un chef reconnu par l'Église avait plus de poids, d'autorité, et inspirait peut-être plus de respect devant les détracteurs. Quand je dis qu'on était sans arrêt dans l'écoute du Saint-Esprit, on peut se référer aux Actes des Apôtres, au chapitre 6 et au chapitre 13, par exemple, que je vous laisse le soin de découvrir si vous ne les connaissez pas. Eh bien, c'est sur ces paroles que je vais vous quitter à présent, en vous souhaitant, eh bien, beaucoup de bonnes choses, que le Seigneur vous bénisse abondamment, vous garde pendant ces temps troublés, et nous nous retrouvons très bientôt pour la suite de cette étude sur l'organisation spirituelle de l'Église. Soyez abondamment bénis et à très bientôt.